Podcast, la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Rhône 40, les réseaux de Lyon. Éventrés, brûlés au fer rouge, transpercés avec des aiguilles, forcés de boire leur urine. Par tradition depuis plus d'un siècle, les nourrices de Lyon recueillent les enfants abandonnés des régions industrielles, ici comme dans la Nièvre voisine. Les pensions mensuelles rétribuant la garde des orphelins sont très courues dans les foyers déshérités. Au sein de ces familles, il n'est pas rare que 6 ou 7 enfants de la DAS s'entassent dans la même chambre. Ce sont les conseils départementaux, avec ce conseil généraux, qui sous-traitent, entre guillemets, la gestion des services sociaux liés à l'enfance et aux handicapés à de multiples associations, comme notamment l'Association pour adultes et jeunes handicapés, l'APAJH, APAJH. Elles peuvent également gérer les placements en famille d'accueil. L'APAJH gère actuellement au niveau national 127 établissements avec 2400 salariés entièrement financés par l'État. 25 000 handicapés sont accompagnés au travers de 87 associations locales. Au total, les APAJH emploient 14 000 salariés pour les personnels non soignants. Ces établissements sont en grande partie des instituts médico-éducatifs, IME, et il en existe 1215 en France. L'APAJH de Lyon, APAJH 89, gère, à l'époque, 8 centres d'accueil pour handicapés dans le département. Et ce n'est pas n'importe quoi, l'APAJH AOCR, je cite. C'est même un lobby très puissant, admet Jean-Pierre Soisson, député maire d'Auxerre pendant plus de 40 ans. Fin de citation. Avec 80 millions de francs de budget et 350 employés, l'association est le deuxième employeur de la ville. Les handicapés des IME sont tous des enfants de la DAS, abandonnés à la naissance ou retirés aux familles. Ce sont des proies faciles et personne ne les cherchera s'ils disparaissent. Note de la rédaction. Comme toujours, nous ne cherchons pas du tout à jeter le discrédit sur ces associations ou ces professions qui font dans l'immense majorité du cas de très bon travail. Mais force est de constater les failles et les dérives possibles de ce système. De même, ces personnes handicapées sont des cibles particulièrement vulnérables et dont les témoignages sont facilement remis en question du fait de leur état de handicap et souvent également de leur traitement médicamenteux. Les pédocriminels, logiquement, peuvent chercher à se placer à leur contact direct. Chronologie. Note de la rédaction, les faits répertoriés ici sont présentés par ordre chronologique afin de bien exposer leur superposition, simultanéité dans le temps, comme si vous aviez vécu à Auxerre à l'époque. Tous ces faits ne sont pas forcément tous connus immédiatement. Nous sommes restreints aux affaires Émile Louis et Claude Dunant, qui concernent clairement de la pédocriminalité de réseau. Une simple recherche dans un moteur de recherche vous démontrera facilement que les pédocriminels ne se sont pas volatilisés suite à l'affaire Émile Louis. Nos commentaires figurent en italique. Allez, on commence donc cette chronologie. 1934, donc Émile Louis naît et est immédiatement abandonné à la DAS. 1944, à la libération des résistants, les résistants tondent en place publique les trois sœurs d'Émile Louis, alors âgées de 10 ans. Pour collaboration, entre guillemets. 1948, il met le feu à la grange d'un des protagonistes pour se venger. Il échappe à la prison, car âgé de 14 ans, le psychiatre le déclare dément. Quelques années plus tard, il est violé dans une colonie de vacances. 52-54. Émile Louis fait la guerre d'Indochine, ramenant tués et blessés vers les bases arrières. À son retour, il se marie et aura 4 enfants. Il habitera successivement à Migennes, Villefargeau, Seignelay, puis Rouvray. Il devient chauffeur d'autocar pour les Rapides de Bourgogne, une compagnie de bus locale, où il aura notamment comme collègue et ami Claude Dunant, lorsqu'il travaille à la gare routière d'Auxerre, la gare des migraines. Il fréquentait les mêmes bars, les Marronniers à Saint-Georges-sur-Bauche notamment, près d'un foyer d'accueil de jeunes de la DAS et le Niki Bar. Fin des années 60, Émile Louis éventre une jeune fille en pleine forêt, sous les yeux de sa propre fille. 70, le cadavre de Lucette Evin, enfant de la DAS, est retrouvé sur un terrain vague, proche du siège des Rapides de Bourgogne, où travaillait déjà Émile Louis. L'enquête aboutit rapidement à un suicide. La procédure et le rapport d'autopsie ont disparu du palais de justice d'Auxerre. 77, 4 filles disparaissent en quelques mois. Christine Marlot, 15 ans, Chantal Gras, 18 ans, Madeleine Dejust, 21 ans et Bernadette Lemoine, 19 ans. Sans laisser aucune trace administrative d'aucune sorte. Domicile, emploi, allocation, mariage, enfant. À chaque fois, les filles prennent le car scolaire pour Villefargeau et se volatilisent. La famille d'Émile Louis est alors composée de 7 enfants. 4 enfants naturels, les 3 enfants Weiss placés par la DAS, et d'autres de passage également placés par la DAS. Émile Louis est très proche, entre guillemets très câlin, de Jacqueline Weiss, plus encore qu'avec ses propres enfants. 77-79, trois autres jeunes filles disparaissent. Martine Renaud, 16 ans, Jacqueline Weiss, justement, 18 ans, et Françoise Lemoine, 27 ans. Jacqueline Weiss et ses deux frères avaient été placés chez Émile Louis comme famille d'accueil. 79, Elisabeth Fontaine disparaît mystérieusement. On retrouve sa voiture sur un parking au bord de Lyon. Le véhicule sera amené à la fourrière directement et sans enquête. Les parents de la jeune fille écrivent deux fois au procureur de l'époque sans obtenir de réponse. Le dossier est fermé. 81. Un agriculteur découvre un cadavre pieds et poings liés dans un tas de fumier dans une cabane à Rouvray. Présence de vêtements féminins, la culotte faisant office de baillon. Le gendarme Jambert commence son enquête. Il apprend qu'il y a peu, une jeune fille de la DAS, Sylviane Lesage, a aussi disparu. Le dossier dentaire permet effectivement d'identifier le cadavre. Le gendarme Jambert soupçonne le compagnon de la nourrice de Sylviane, Émile Louis, qui visiblement est également l'amant de Sylviane Lesage. Ils résident à Seignelay et ils ont des petits-enfants placés de la DAS, dont deux seront victimes d'abus sexuels par Émile Louis, attouchement et pénétration avec des objets durant le bain. Des années plus tard, la nourrice Gilberte Binoche et sa fille seront toutes deux portées disparues. La page de Lyon gère alors 8 centres d'accueil pour handicapés dans le département. Nicole Charrier, directrice d'un centre de la page, et femme de Pierre Charrier, le directeur de la page 89, se portent témoin de moralité. Je cite « Monsieur Louis se montre très près, compréhensif, voire même éducatif et éducateur dans ses contacts avec nos adolescents », écrit-elle au juge d'instruction. « Vécu comme un père, parfois comme un grand frère, à qui l'on peut tout dire, il permettait les cigarettes à 14-15 ans ou les flirts ». Fin de citation. Pour le défendre, on réquisitionne un ténor du barreau parisien, Maître Thierry Lévy. Si, si, c'est bien le même, le cyclope des Carpates, oui, oui, qui défendait la pédocriminalité sur l'émission Ce soir ou jamais, tout le monde s'en souvient. Le monde est petit quand même, je vous laisse voir la vidéo. Ce monsieur est mort entre-temps, pas une grosse perte pour l'humanité. Émile Louis bénéficie d'un long lieu, faute de preuves. 82. Le gendarme Jambert place Émile Louis en garde à vue 48 heures et il avoue les attouchements sur les mineurs placés chez sa compagne, mais rien d'autre. Les trois fillettes de la DAS se plaignent régulièrement, je cite « Monsieur Émile leur fait faire des drôles de choses ». Il confie également à un proche avoir des pulsions sexuelles morbides, incontrôlables. Émile Louis est condamné à 5 ans de prison ferme pour attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et voit sa peine ramenée en appel à 4 ans. Il en fera 3 et sera libéré pour bonne conduite. Jusque-là, il est clair pour nous qu'Émile Louis n'a jamais reçu de soutien. Jambert veut aller plus loin, mais le procureur René Meyer lui demande des preuves, donc des cadavres, sans lesquels il ne peut pas ouvrir l'instruction. Selon de nombreux témoignages concordants, Émile Louis est toujours dans les parages lors de la disparition des filles. 1984, l'affaire du Nant. Suite à l'évasion d'une jeune fille séquestrée, Huguette, le domicile de Claude et Monique Dunant, alias le monstre d'Apoigny, ou les tortionnaires de Lyon, est perquisitionné et les gendarmes découvrent dans la cave une jeune femme entravée sur une croix de Saint-André, Michaela. Claude Dunant est conducteur d'autocar, collègue et ami d'Émile Louis de l'époque, où ils travaillent tous deux à la gare routière d'Auxerre et habitaient tous deux à La Roche-Migène, 20 minutes au nord-ouest d'Auxerre. Puis il sera VRP pour une société de produits surgelés. Toutes les deux âgées de 18 ans, Huguette et Michaela étaient quotidiennement victimes de violences, de viols et de tortures, éventrées, brûlées au fer rouge, transpercées avec des aiguilles, fouettées, nourries à la pâtée pour chiens, forcées de boire leur urine, poses d'écarteurs dans le vagin, courants électriques et autres atrocités. De la part de nombreux clients qui venaient là et payaient pour ça depuis 3 mois pour Huguette et 3 semaines pour Michaela. Les deux jeunes filles étaient placées par la DAS, Huguette depuis l'âge de 7 ans, au foyer de Montmercy, IME de Gratry, dirigé par Pierre Charrier, foyer de l'enfance à Auxerre, où de nombreuses autres jeunes filles ont disparu. Huguette témoigne, rien que pour elle, d'au moins une trentaine de clients réguliers, dont un médecin qui venait régulièrement soigner les sévices. Claude et Monique Dunant passaient des annonces dans les journaux sadomasochistes spécialisés, Club Amour, notamment à Lyon, proposant aux clients de devenir tortionnaires contre de fortes sommes d'argent. Le premier client tortionnaire d'Huguette est un Allemand qui se fait appeler Helmut. Je cite « C'est 500 francs la pose d'écarteur dans le vagin », L'argent est directement reversé à l'organisation, dit-elle encore. Il faut préciser qu'il se passe 3 jours entre le moment où le procureur est prévenu et celui de la perquisition. Le médecin traitant Huguette a averti le procureur de la République, René Meyer. Je cite « J'ai tout raconté aux flics le soir même, je leur disais qu'il y avait Michaela, qu'il fallait la libérer vite. Et ils ne me croyaient pas. » Fin de citation. Huguette, la jeune fille évadée, est placée d'office à l'hôpital psychiatrique d'Auxerre, où elle est placée sous traitement médicamenteux, ce qui altérera ses capacités. Le gendarme Jambert est immédiatement dessaisi de l'enquête, arguant qu'il n'a pas de rapport avec Émile Louis, incarcéré à ce moment-là. La police judiciaire, SRPJ de Versailles, est chargée de l'affaire, et visiblement d'autres personnes sont au courant. Il y a des journalistes sur place, alors que l'arrestation n'a pas encore eu lieu. Le substitut du procureur Stilinovic confirmera plus tard qu'une fuite au service de presse du ministère de l'Intérieur avait saboté l'affaire, permettant aux clients prévenus de ne pas venir chez les Dunant. Le commissaire Vialat, chargé de l'affaire, ne sera jamais convoqué pour témoigner lors du procès. Il mourra en 2002 d'une crise cardiaque, alors qu'il n'avait aucun antécédent médical. Un carnet avec une cinquantaine de noms de clients, emporté par Huguette lors de son évasion, est saisi et scellé. Ce carnet verra d'abord deux de ses pages se faire arracher, puis disparaîtra du palais de justice d'Auxerre, témoignage de la greffière Jousselan, et seuls deux clients arrivant pour consommer de la torture au moment de la perquisition seront arrêtés. Deux autres carnets noirs sont retrouvés au moment de la perquisition, mais dont, entre guillemets, l'exploitation ne permettait pas de retrouver d'autres tortionnaires. Les deux carnets sont tellement inexploitables qu'ils disparaissent au cours de l'instruction. Allez hop, vous verrez que c'est une habitude au tribunal d'Auxerre. Le juge Jacques Bourguignon est chargé de l'instruction, qui s'enlise, et pour cause, le juge ne posera jamais aucune question aux jeunes filles sur les clients. Les deux clients ont été vus à visage découvert et identifiés par une des jeunes filles. Georges Etiévant, avocat d'origine libanaise, qui avait connu Dunant au club des Genêts d'Or à Paris et meurt d'une crise cardiaque peu avant d'être jugé. Joseph Kioch, bénéficiant très rapidement d'un non-lieu. Huguette dira à raison que ce dernier était petit avec les yeux bleus, alors que le dossier d'instruction note qu'il est grand avec les yeux marrons. Cette dernière description l'innocentera, alors que les Dunant le désignent comme client. Ses proches attestent par écrit qu'il était à Paris au moment des faits. Trois autres clients ont pu être identifiés, arrivant sur les lieux au moment de la perquisition. Paul Lefort, qui avait reconnu les faits, meurt d'une crise cardiaque avant d'être jugé. Décidément, les cœurs sont fragiles dans Lyon. Il parlera d'une fille dont Dunant assurait s'être débarrassé. Christian Grima, directeur d'un supermarché d'Auxerre, a été condamné à 6 mois de prison ferme pour viol et torture. On rêve. Alors d'un procès où il menaçait ouvertement de faire exploser le département par rapport à ce qu'il savait. Il mourra avant d'être incarcéré, en se suicidant juste après avoir tué sa femme. Le dossier du troisième disparaît du palais de justice d'Auxerre. Il ne sera jamais inquiété alors qu'il a reconnu les faits pendant l'instruction. Les voisins d'Appoigny de Dunant ont témoigné avoir reconnu Jean-Pierre Soisson, donc le député maire d'Auxerre, lors des allées et venues de clients. Dunant disait aux jeunes filles que, je cite, « Il y avait des clients très haut placés qui avaient beaucoup de puissance et qu'ils n'étaient qu'un pauvre instrument de leurs mains. » Ah bah oui, le pauvre. Il leur déclarait également qu'il y avait eu d'autres filles avant à leur place et qu'elles étaient mortes et enterrées. « Si j'arrive pas à te vendre, t'es trop cher, tu finiras comme les autres, tu mangeras les pissenlits par la racine. » Une organisation de pédocriminels protégée est évoquée à un moment par Dunant, qui explique que des jeunes filles étaient enlevées et vendues aux enchères, que certaines étaient tuées rapidement. Huguette témoigne que Dunant parlait souvent de « l'organisation » qui lui donnait ses ordres. Mais Dunant finalement se rétracte et ne lâchera plus rien. Une ancienne prostituée d'Auxerre, Isabelle, recrutée par Dunant, avait également subi les tortures, mais elle n'était jamais cagoulée, elle a réussi à s'enfuir. Elle ne sera jamais recherchée ni entendue lors de l'instruction du juge Bourguignon. En 1991, elle ne sera pas non plus entendue lors du procès Dunant à cause d'un accident. En effet, elle est renversée par une voiture peu avant. Elle mourra en 1998, empoisonnée, et aucun papier, photo ou document ne seront retrouvés à son domicile. Un magistrat de l'époque l'affirme, et un avocat confirme, je cite, Les carnets ont été retirés de l'instruction, jamais exploités. L'affaire Dunant a été étouffée. Il y avait des réseaux, mais on n'a pas trop cherché. L'enquête avait établi que Claude Dunant déménageait souvent, qu'il choisissait des pavillons isolés où il décorait avec soin la salle de torture. Je cite, Mais on n'a rien fouillé, nulle part. De nombreux médecins se retrouvaient si souvent au restaurant Le Saint-Fiacre à Appoigny, à 100 mètres à peine de chez les Dunant. Le Saint-Fiacre était tenu par un ancien proxénète, sous la protection duquel Monique Dunant s'était prostituée un temps à Auxerre. Le proxénète fréquentait aussi le Niki Bar, où Émile Louis avait fait ses habitudes et où Françoise Lemoine avait travaillé comme serveuse. Claude Dunant admettra avoir exercé son petit commerce pendant 15 ans. Sur la demande du substitut du procureur, Daniel Stilinovitch, le gendarme Jambert rédige un rapport synthétique de son enquête. Le juge d'instruction, chargé du meurtre de Sylviane Lesage, reçoit ce rapport en lui demandant d'élargir son enquête aux autres disparitions. Christian Jambert découvre les 7 disparitions de jeunes filles handicapées, Toutes fréquentaient Émile Louis et lui vouaient une confiance sans bornes. Toutes ont été aperçues près de lui quelques heures avant leur disparition. Peu après, le substitut du procureur Daniel Stilinovitch est muté. Le rapport est enterré pour 12 longues années. Le procureur René Meyer a reçu le rapport du gendarme Jambert évoquant de forts soupçons sur un conducteur de car nommé Émile Louis qui sera impliqué dans la disparition de cette jeune fille. Je cite « Il n'y avait pas de preuves. Le gendarme ne semblait pas y croire lui-même », déclara-t-il lors du procès. Ben voyons. Le juge d'instruction Bourguignon dira également « Le rapport du gendarme Jambert, je ne me souviens pas de l'avoir eu entre les mains. » Oui, 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 bien sûr. Aujourd'hui, le juge Bourguignon est doyen des juges d'instruction de Mulhouse. Le substitut du procureur Stilinovitch déclara en 2005, je cite « On sait qui est le responsable de l'enlisement de l'affaire. Le juge Bourguignon lui-même, à qui le fameux « non », un mot en toutes lettres apposé sur la demande d'instruction, a été attribué par expertise graphologique. Mais on s'en fout au ministère, pas question d'ouvrir le dossier. » Il ajoute « Le procureur requiert, l'avocat plaide. Dans les deux cas, ils parlent pour gagner leur beefsteak, car pour le reste, ça ne sert souvent à rien. La religion du tribunal étant déjà faite. » Bon, à titre personnel, on sait de quelle religion on parle, soit la franc-maçonnerie, ou si on veut voir un petit peu plus loin, le satanisme. Mais ce n'est qu'à titre personnel que je me permets cette petite incise. Émile Louis sort de prison et va s'installer dans le Var. Le Var, tiens donc, un département également connu pour ses nombreuses affaires de pédocriminalité. Je vous renvoie notamment à l'affaire Amie de Lisa et à plein d'autres affaires. Le Var est vraiment un des pires départements de France à ce niveau-là. 85. Le docteur Dumège dirigeait un service de l'hôpital d'Auxerre. Il est le beau-frère de l'avocat de Nicole Charrier et parlait de sexe toute la journée, confie l'ancien employé de l'hôpital. Je cite « On disait qu'il organisait des soirées coquines pour les notables de la ville, dans une pièce attenante à son domicile de l'hôpital. » Fin de citation. Un jour, Dumège accepte d'aller faire un tour en planeur avec des copains, prend un petit café avant de décoller et s'endort dans le cockpit avant de s'écraser au sol. Il n'y aura pas d'enquête, pas d'autopsie. Son successeur, le docteur Chauveau, est aussi le psychiatre de l'IME pour enfants handicapés des Brions, à Tonnerre, à 20 minutes à l'est d'Auxerre. Des parents avaient déposé plainte, qui n'ont jamais abouti auprès du juge bourguignon à Auxerre, pour séquestration et coups et blessures. Dans le service fermé du docteur Chauveau, un père a retrouvé son enfant autiste, attaché, la peau du taux et les bras arrachés. Martine B., une jeune fille que Chauveau avait fait hospitaliser, et qui, je cite, « n'avait rien à faire là, elle était autonome et ne souffrait d'aucun trouble psychique », raconte une infirmière. Chauveau répondait qu'il la gardait par humanité et en attendant qu'elle trouve un placement. Quelques semaines plus tard, Chauveau annonce que la sortie de Martine B. est prête. Fin de citation. Elle s'en va dans une maison de retraite à Vézelay. Plutôt que Yvan l'infirmier l'accompagne comme d'habitude dans ces cas-là, Chauveau a organisé les choses à l'avance. Je cite « Son tuteur la prendra à mi-chemin ». Martine B. disparaît sans enquête. À Auxerre, un long séjour en service fermé, ce n'est pas 3 mois, comme ailleurs, mais 3 ans. Je cite « Il fallait la fermer ». Les médecins étaient souverains. Chantal C., patiente au service fermé, est partie en permission chez ses parents un week-end. Et elle n'est jamais revenue. Chauveau avait un ami condamné dans une affaire de trafic de diamants. Pendant qu'il purgeait sa peine, le psychiatre a pris sa femme en charge, un peu déprimée, atteinte d'un cancer. Il lui prescrit quelques médicaments. Quand les policiers sont venus l'interroger, l'épouse du trafiquant ne pouvait plus aligner 3 mots. 87. Isabelle Laville, une jeune fille, disparaît. Le dossier est classé sans suite, 5 semaines seulement après les faits. Elle n'a jamais été retrouvée. 88. Dunon est en préventive. Muet en détenu modèle, il bénéficie de l'intervention d'une association subventionnée d'insertion d'anciens prisonniers dirigée par Georges Fritsch, la Fraternité Notre-Dame. Fritsch est membre du comité de gestion au CAT, le Centre d'aide par le travail de Mézy, donc les centres pour handicapés, aujourd'hui on appelle ça des ESAT. Ami de Georges de Cuypère, un des fondateurs de la page 89, et se recommande au député maire d'Auxerre, donc Jean-Pierre Soisson. Dunant finance également l'association. L'association intervient auprès du ministre de la Justice, M. Arpaillange, pour obtenir 200 000 francs de l'époque, plus de 30 000 euros, et la libération conditionnelle des Dunant. Alors, ministre du Travail, Jean-Pierre Soisson intervient même auprès d'Arpaillange et informe Georges Fritsch en juin, je cite, Je note avec plaisir que votre dossier est en cours de constitution et j'espère vivement que vous obtiendrez l'aide financière souhaitée. Marie-Angèle Domès, enfant de la DAS, disparaît. Affaire classée. 1989. Émile Louis est condamné à nouveau pour pédophilie à 5 ans de réclusion. Il en purgera 3 et sortira pour bonne conduite. Et il vit à Draguignan. Danielle Bernard, une infirmière travaillant dans un centre pour jeunes handicapés en attente de placement, est assassinée chez elle. La tête fracassée à coups de tisonnier, le thorax perforé à coups de tournevis après avoir été torturée. Elle a connu les victimes d'Apoigny et elle était la veille à un repas champêtre auquel est venu le docteur Chauveau. Quand la police est arrivée au domicile de l'infirmière, il y avait déjà foule autour du cadavre. Des journalistes, un magistrat, l'ex-belle-mère de la victime, conseillère municipale sur la liste de Jean-Pierre Soisson. Impossible de prélever le moindre indice. Le procureur de la République de l'époque, Jacques Casal, a classé le dossier sans suite. On se demande s'il y a une autre alternative. Un non-lieu est prononcé en 2000, faute de coupable, mais l'enquête est réouverte en 2010 et le parquet d'Auxerre, est confié à la police judiciaire de Dijon. Le directeur de l'APAGE, Pierre Charrier, est pris en flagrant délit à l'arrière d'une voiture en train de violer une handicapée de 22 ans avec un jeune garçon à l'avant. Pierre Charrier est condamné à 6 ans de prison, en évitant les assises, avec la correctionnalisation du viol. Cela s'est produit de nombreuses fois depuis au moins un an, d'après les victimes. Pierre Charrier est la cheville ouvrière de l'APAGE durant plus de 20 ans. Il a monté tous les foyers pour handicapés d'OCR, ce qui, pour de nombreuses personnes de son entourage, le place au-dessus de tout soupçon. Mariée à Nicole Charrier, devenue conseillère municipale de la ville d'Auxerre, sur la liste de Jean-Pierre Soisson, il dirige tous deux l'APAGE d'une main de fer. 8 établissements, 350 employés. Ils utilisent les méthodes pour le moins atypiques. Je cite « Montrer ses seins à une jeune trisomique, la petite s'est mise à hurler. Alors Nicole Charrier a baissé son pantalon pour lui montrer ses fesses », se souvient une ancienne éducatrice du foyer Gué de Soleil. Cette éducatrice avait fait un courrier de dénonciation aux autorités judiciaires pour signaler une fellation dont avait été victime un déficient mental. Elle est restée lettre morte. Serge Lange, ancien administrateur de l'APAGE, a fait des démarches autour du préfet de Lyon pour faire stopper ces pratiques. Elles sont restées vaines. Georges de Cuyper, 71 ans, ex-directeur de l'IME de Gratry, remplace Pierre Charrier à la tête de l'APAGE et dans le lit de Nicole Charrier. Il déclarait quelques années plus tard aux journalistes, je cite, « Je crois savoir que la justice à Auxerre ne voit pas d'un très bon œil le remue-ménage provoqué par l'ADI, l'Association des familles des disparus de Lyon. » Tout ça, c'est du cirque. On sait que ces jeunes filles ont quitté la région dans des conditions normales. Bah oui, c'est évident. 90. De manière absolument unique dans les annales de la justice, Claude Dunant obtient sa remise en liberté conditionnelle. Il est directement employé comme chauffeur d'autocar par la fameuse association La Fraternité Notre-Dame, qui a donc reçu 30 000 euros de subvention pour ça. Dunant explique dans le journal qu'à sa sortie de prison, un généreux donateur le contacte et lui propose une nouvelle identité. Un billet d'avion pour le Sénégal et une forte somme d'argent. Confiant, Dunant refuse l'offre et reste. Quelques années plus tard, l'ancien curé Fritsch disparaît de Lyon. On retrouve quelques documents dans son local paroissial, dont des invitations à des « soirées Q » avec un Q majuscule. À la préfecture, et sur ordre oral du préfet, les statuts de l'association ne sont pas consultables, ce qui est illégal, car l'association est dissoute. Johanna Parrish, une étudiante, est retrouvée violée, étranglée et nue dans Lyon, la rivière. L'affaire est close en 2011, malgré le témoignage de la femme de Fourniret disant que son mari s'est vanté d'avoir tué une jeune fille à Auxerre et de l'avoir jetée dans Lyon. Les échantillons ADN prélevés sur Johanna Parrish ont été égarés. L'affaire est réouverte en 2012, suite à l'appel de la famille. Des liens apparaissent avec la venue dans Lyon de Michel Fourniret. 91. Claude Dunant est jugé à Auxerre et condamné à la perpétuité, sans peine de sûreté, à l'issue d'un procès rendu éprouvant par l'étalage d'insupportables instruments de torture. Claude Dunant, dont une expertise psychiatrique avait démontré, je cite, « la perversité sadique et l'intelligence normale ». Il regagnera une centrale pénitentiaire près de Mulhouse, arrogant, il reconnaît les faits, ment allègrement et ne dénonce aucun client. 92. Émile Louis sort de prison et épouse Chantal Paradis, déjà mère d'une fille, Karine, âgée de 14 ans. Émile Louis les a toutes les deux violées et torturées de 92 à 95. Pierre Monnoir a un frère handicapé mental à l'IME, d'Auxerre, dont il constate que la jeune fille mineure violée par Pierre Charrier en 89 est restée dans l'IME, tenu par son épouse Nicole Charrier, et se fait traiter de « petite pute », que toutes les institutions, préfectures, DAS semblent vouloir étouffer l'affaire. Pierre Monnoir sent qu'il y a un grave problème. Je cite « Si tu ne la fermes pas, on te refile ton frère et tu te débrouilles avec », lui semble un jour un responsable local. Isolé, Pierre Monnoir dérange et reçoit des menaces de mort. Il fonde l'association des familles des disparus de Lyon, l'ADHY. Hubert Besson, journaliste de Lyon, à Lyon Républicaine, journaliste à Lyon Républicaine, le canard local, déclare « Pierre Monnoir, les symptômes, effectivement, de la paranoïa, ou de la bouffée délirante, si vous voulez. Dans un département comme Lyon, il y a 50 personnes par an qui disparaissent, donc ce n'est pas quelque chose de majeur. » Bien sûr. Le gendarme Jambert commence à être mal noté par sa hiérarchie qui jusque-là ne lui avait toujours trouvé que des qualités exceptionnelles, et notamment sur le plan judiciaire. 95, deux employés de l'IME d'Auxerre photographient les dossiers des quatre jeunes filles disparues entre 77 et 78 et confient les photos à Pierre Monnoir. 95 à 98, 13 jeunes femmes handicapées mentales ont été stérilisées à leur insu, ligature des trompes. Elles étaient hébergées à Sens dans un foyer CAT géré directement par la page nationale. Comme quoi, l'eugénisme ne s'est pas arrêté avec les nazis. 96, le gendarme Jambert part à la retraite et est donc libéré de son devoir de réserve. Monique Dunant meurt d'une chute dans les escaliers. Oh. Pierre Monnoir va voir l'émission Perdu de vue de TF1 qui est spécialisée dans la recherche des personnes disparues. Un journaliste de l'émission part enquêter à Auxerre et aucune institution ne lui répond. Ni la DAS, ni le Conseil Général, ni la gendarmerie, ni la justice, ni la page. Georges de Cuyper, le directeur de la page, dira, je cite, « Il n'y a pas de disparus. Ce sont des rumeurs. Je ne vous donnerai aucun élément et la justice ne m'obligera pas à vous donner des éléments pour les retrouver. » Ah ben comme ça, s'il n'y a pas de disparus. Au personnel des établissements qui s'interrogeaient, on répondait que les fugues étaient signalées aux autorités, ce qui est faux. Je cite, « Il ne fallait pas qu'on s'en mêle, raconte une éducatrice. C'était quasiment devenu interdit de parler de ces filles. » Le journaliste contacte le gendarme Jambert, dont le rapport lui est communiqué, et évoque les 7 jeunes filles disparues et les soupçons sur Émile Louis. 4 émissions de Perdu de vue seront consacrées à cette affaire. Suite à l'exposition médiatique, les familles se réunissent et engagent un avocat. Grâce à lui, elles portent plainte pour enlèvement et séquestration afin d'éviter la prescription de 10 ans à l'époque, 20 ans aujourd'hui pour les crimes sur mineurs. Ce jour-là, les familles convoquent la presse, mais le juge d'instruction Benoît Lewandowski est introuvable. Finalement, il arrive et les fait expulser du tribunal, en leur disant de porter plainte via leur cabinet d'avocat. Le juge ne voit pas l'intérêt d'ouvrir une instruction, il déclarera « ça ferait faire de l'archéologie judiciaire ». Les familles sont convoquées au tribunal pour être auditionnées. Là, elles sont carrément culpabilisées, voire suspectées. Encore une logique à toute épreuve, pourquoi des familles coupables viendraient sortir un dossier dangereux pour elles-mêmes 30 ans après les faits? Suite à cela, plus rien du tout. Pendant des mois, il n'y a pas de décision pour ouvrir une instruction ou non. Je cite, il déclarera « C'est un dossier où il n'y a absolument rien. » Voilà. 97. Suite à la pression exercée par les avocats, menaçant le procureur Jacques Casal de l'attaquer pour déni de justice, il dit qu'il ne faut pas ouvrir d'instruction car l'affaire est trop ancienne. Le juge d'instruction Lewandowski se range à son avis. Le dossier est classé sans suite et les familles font appel à Paris, juridiction supérieure, qui force le juge d'instruction Lewandowski à continuer l'instruction. L'assassinat du gendarme Jambert. L'instruction demande à entendre le gendarme retraité Jambert comme témoin et la saisie de ses dossiers. Jambert travaillait encore bénévolement sur de nombreux dossiers, notamment 2 réseaux pédocriminels qui étaient en lien, l'un dans Lyon et l'autre dans la Nièvre. Je vous renvoie au podcast sur le pasteur Doucet notamment. Il attendait ça depuis des années et disait à ses proches que ça allait être le sommet de sa carrière. Il se sentait menacé, plutôt par un éventuel accident de voiture, et il avait dit à son fils que sa voiture avait été déjà sabotée une fois, et était très méfiant du fait de ses enquêtes en cours. Il avait des pistes pour trouver un travail comme enquêteur dans les assurances et comme détective privé, et il allait bien d'après ses proches. 2 ans auparavant, il avait tenté de se suicider car sa femme l'avait quitté, mais pas par avec une arme à feu, avec un mélange d'alcool et de médicaments. 3 semaines plus tard, à quelques jours de son audition, et alors qu'il avait justement récupéré les doubles de ses dossiers, une sacoche confiée à son fils à l'époque, le gendarme Jambert est retrouvé mort dans son garage. Sa carabine est posée sur ses jambes, une lettre d'adieu pour sa fille est retrouvée, la sacoche a disparu. En 35 minutes exactement, le gendarme en charge conclut au suicide, avec un procès-verbal de 3 pages, où le mot « dépressif » est écrit plus de 10 fois. Certains témoignages de proches ont été transformés après coup. Le fils de Jeanbert témoigne des enquêtes de son père sur le réseau pédocriminel Yonne-Nièvre et les gendarmes lui rétorquent d'autorité, je cite, « C'est faux, votre père affabule !» C'est beau la justice. Le soi-disant médecin légiste, en réalité un simple médecin généraliste de SOS Médecins appelé en remplacement du titulaire habituel, alors en vacances, conclut en 10 minutes exactement au suicide avec une seule balle dans la tête. Dans ce cas de figure, le corps aurait dû normalement être renvoyé à l'Institut médico-légal, IML du secteur, pour examen par un médecin légiste compétent. L'arme est bizarrement posée sur les jambes du cadavre, alors que la configuration supposée est un suicide debout, avec la carabine. Les mesures de la taille de l'arme et du bras de Jeanbert ne sont pas prises pour attester de la possibilité physique du suicide, alors que c'est une procédure systématique et obligatoire dans ces cas. Les prélèvements des résidus de poudre éjectés de la chambre de l'arme lors du coup de feu sur les mains de Jeanbert ne seront jamais analysés. La marque et le calibre de l'arme ne sont pas notés. Carabine Gevarn 22 long rifle. La largeur des rayures internes du caillon de cette arme, donc 1,5 mm, ne correspond pas avec les rayures des balles retrouvées dans la tête de Jeanbert, 1,15 mm. D'autres procédures visuelles habituelles n'ont pas été réalisées par le médecin. Température du corps, traces de lutte, état des ongles avec d'éventuelles traces ADN dessous, blessures, bleus, ecchymoses, hématomes, etc. Plutôt étonnant pour une enquête pour la mort d'un gendarme. Les photos du visage de Jeanbert montrent 2 griffures fraîches au visage sous l'œil gauche et une plaie avec ecchymose au sommet du crâne, ne pouvant être causée par la chute en arrière qui aurait provoqué une ecchymose sur l'arrière du crâne. En dépit de toutes les règles en vigueur, en cas de décès par mort violente, aucune autopsie ne sera pratiquée sur ordre du procureur Jacques Casal, selon lui avec l'aval du parquet général après une soi-disant enquête d'un mois. À l'époque, la gendarmerie avait affirmé à la fille de Jeanbert qu'une autopsie avait bien été réalisée. Aujourd'hui, le procureur Casal travaille à Paris et n'a pas été sanctionné. Le rapport du gendarme Jeanbert a disparu des archives du palais de justice d'Auxerre et l'enquête repart donc de zéro avec 2 gendarmes à plein temps. De nombreuses fouilles sont ordonnées sur les dires des uns des autres pour retrouver un cadavre, en vain. 99. Les familles des disparus demandent le dossier sur la mort du gendarme Jeanbert. Elles se rendent compte que le dossier est vide. Pas d'autopsie, pas d'expertise scientifique, des photos floues, pire, il existe 2 dossiers pour le même cas. Le nouveau procureur de la République d'Auxerre est une ancienne collaboratrice d'Henri Nallet au ministère de la Justice, Suzanne Lequeau. Depuis quelques mois, ses relations exécrables avec le juge Lewandowski, chargé de l'instruction du dossier Émile Louis, sont un secret de polichinelle. Or, c'est ce même juge qui, en juin 1999, avait mis en examen Henri Nallet pour abus de biens sociaux dans l'affaire du Crédit Agricole de Lyon. 2000, le juge Lewandowski est muté à Paris, et une semaine plus tard, la mise en examen d'Henri Nallet est annulée par la Cour d'appel de Paris. Les membres de l'ADI, donc l'Association des victimes disparues de Lyon, sont effondrés. Je cite « Le dossier judiciaire d'Émile Louis remplit une armoire entière. Le départ du juge Lewandowski, qui connaît l'affaire depuis son commencement, est une calamité supplémentaire pour la suite de l'enquête. » Fin de citation. Les familles des 7 disparus demandent à consulter chez les gendarmes la circulaire extraite d'un fichier pédophile. Parmi les quelques 500 clichés, souvent anciens et de mauvaise qualité, Ginette Lemoine pense reconnaître sa sœur Françoise sur la photo numérotée 245. Mais selon les policiers, des éléments le prouveraient. Ce n'est pas Françoise. C'est le même procédé fallacieux consistant à affirmer sans prouver en disant que c'est un sosie ou que ce n'est pas possible, comme dans l'affaire Zandvoort. Je vous renvoie au podcast consacré particulièrement à l'affaire Zandvoort. La fille aînée d'Émile Louis, Marilyn Vinet, déclare avoir été violée par son père depuis l'âge de 5 ans. Sa mère ayant également subi des viols, tortures et autres actes de barbarie. Elle affirme également avoir assisté à l'âge de 10 ans environ au meurtre d'une jeune fille éventrée par son père dans un bois à Saint-Florentin, à 30 km au nord-est d'Auxerre. Les preuves manquent pour accuser Émile Louis et les supérieurs du juge Lewandowski font pression officieusement sur lui pour clore l'affaire. Marie-Lise Vinet sera agressée le 23 février 2001 par 2 hommes, je cite, pour avoir parlé aux gendarmes. Les gendarmes placent Émile Louis en garde à vue pour 48 heures. Et le journal Lyon Républicaine plonge, je cite, « La presse parisienne est insatiable. Il lui faut du scandale, du vrai, politico-judiciaire de préférence. Des politiques pourraient être mouillées. Bonjour l'imagination. L'appareil judiciaire et les institutions sont déjà condamnés avant d'avoir été entendus. Il ne reste qu'à épingler Soisson, Henri Nallet ou Giroud. L'affaire des disparus aura alors vraiment de l'allure. » Fin de citation. Donc là, on voit le parti pris abusif. Une bonne blague. Les gendarmes font croire à la prescription Émile Louis, après avoir vu l'article du code pénal, avoue les sept meurtres, les circonstances, les détails, les emplacements des corps sur quatre et sur place. Deux squelettes bâillonnés avec des sous-vêtements féminins sont effectivement exhumés, avec des vêtements féminins et d'autres accessoires. L'expertise ADN confirme l'identité de Madeleine Just et Jacqueline Weiss. Les médias proclament tous en chœur la confirmation de la thèse du prédateur isolé, et les négligences et les dysfonctionnements de la justice, de terribles coïncidences. Un prédateur très malin, ouais, tellement malin qu'il se fait avoir grossièrement, quoi. Et surtout, pas de réseau, pas de protection. Émile Louis en prison, sa deuxième épouse Chantal Paradis déclare les viols, tortures et actes de barbarie qu'elle et sa fille ont subis. 2001, Émile Louis se rétracte sur l'ensemble des aveux. Et ouais, il a dû être au courant que la prescription, en fait, elle courait pas. Dunant bénéficie d'un régime de semi-liberté, bien que condamné à la perpétuité, grâce à, selon ses dires, au respect de la loi du silence. Il déclare vouloir aider l'humanité pour le restant de ses jours. Oh, c'est magnifique, j'ai envie de pleurer. Il contacte un journaliste du journal L'Irlande républicaine et parle. Je cite: Les clients étaient des personnes importantes, habituées des clubs de rencontres, surtout des Parisiens et quelques Lyonnais. Il y avait des notables, des riches, des chefs d'entreprise, des chirurgiens, un politique nationalement connu, des magistrats. Fin de citation. Cet entretien, réalisé de manière très prudente par Dunant en dehors de Lyon, sonne évidemment comme une mise en garde envers ses anciens clients. Il vit actuellement libre au centre-ville de Toulouse, comme le juge Bourguignon, dans un bel appartement luxueux et se comporte très prudemment. Boîte postale, toujours accompagné, comportement méfiant. Un proche confirme qu'il reçoit des menaces de mort par courrier dans le cas où il parlerait. Dunant lui-même raconte qu'il a été initié par Georges Etiévant à ses milieux. Claude Dunant confirme une cinquantaine de clients réguliers, principalement des régions parisiennes. Le réalisateur Yves Boisset a voulu préparer un film sur le sujet, a enquêté dans tout le département de Lyon, et un haut fonctionnaire de l'État lui dira, je cite, qu'il faut faire attention, car il y a beaucoup de suicides, d'accidents de voiture et de crises cardiaques, à l'intérieur ou à la périphérie de cette affaire, et qu'il serait dommage qu'il vous arrive quelque chose. Fin de citation. Donc une menace à peine volée. Le soir même, sa voiture sera fracturée dans une rue parisienne, connue pour être particulièrement fréquentée par la police. La ministre socialiste Marie-Lise Le Branchu demande une enquête dont les résultats sont accablants pour le magistrat en l'époque à la place en l'époque. Donc, René Meyer, Bertrand Dailly, Daniel Stilinovitch et Jacques Cazal. En France, ça ne se fait pas de mettre en cause des magistrats. L'ancien plus haut magistrat de France, Pierre Truche, a d'ailleurs fait le déplacement pour dire qu'il est outré par cette audience qui offense la profession. Je cite: Qu'est-ce que c'est que ce pays où on voit un gouvernement poursuivre les magistrats? Ah oui, effectivement, ça ressemble pas à ce qu'on a mis en place en 1789, ça c'est clair. Le corporatisme des magistrats ne supporte pas d'être sanctionné et le Conseil d'État annule les sanctions quelques mois plus tard. Bertrand Dailly, aujourd'hui procureur à Morlaix, a même le culot de se présenter pour une place au Conseil supérieur de la magistrature qui sanctionne les juges. Selon le rapport demandé par la ministre de la Justice, Marie-Lise Le Branchu, à l'IGSJ, donc l'Inspection générale des services judiciaires, la police des polices, la police de la justice, entre guillemets. Écoutez bien, 1042 dossiers sur 1088, soit quasiment tous, de non-lieu, donc des dossiers de non-lieu prononcés entre 58 et 82 au tribunal d'Auxerre, 1042 sur 1048 ont disparu. Ok? On a vidé les archives. Allez, tous les non-lieux. L'enquête sur les services sociaux n'a abouti à aucune sanction, mais sur la base d'un pré-rapport de l'IGAS, diligenté par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité, Elisabeth Guigou, elle ordonne la fermeture administrative des 8 établissements gérés par la PAJE pour, je cite, des faits et des comportements d'une particulière gravité risquant de compromettre la santé et le bien-être physique des personnes qui sont accueillies. Ah, quand même, ça commence vraiment à faire trop de vagues. Nicole Charrier est suspendue de ses fonctions de directrice du foyer Gai de Soleil. Elle est finalement licenciée de la page 89 avec quand même un chèque de 1,5 million de francs, soit quand même 225 000 euros d'indemnité. Les familles des disparus reconnaissent leurs proches sur les DVD de Zandvoort. La police leur dit qu'ils se trompent. Georges de Cuypers et Nicole Charrier, à la tête d'une nouvelle association d'handicapés, ESH 89, tentent de récupérer la gestion de 7 IME et les 15 millions de francs, plus de 2,25 millions euros de la trésorerie qui vont avec. Une association loi 901, elle est censée avoir des comptes nuls chaque année, hein, dont leur intitulé à but non lucratif. Mais là, il y avait quand même un très gros trésor de guerre. Deux enquêteurs du Trésor public avaient rédigé un rapport cinglant sur la gestion financière de la page 89. Je cite: L'organisation comptable et financière est opaque et entachée de graves irrégularités. La trésorerie pléthorique est une aberration dans une association dont la vocation première est d'utiliser les fonds publics dans un but social et non de se procurer des recettes propres par le biais de placements à long terme. Fin de citation. Deux sociétés civiles immobilières, SCI, dépendent de l'ESH 89. Finalement, en 2002, la gestion des 7 centres sera confiée à une autre structure, l'EPNAC. 2002. La famille du gendarme Jean Vert dépose plainte pour recherche des causes de la mort. Dunan bénéficie d'une libération conditionnelle. De manière unique dans les annales de la justice pour un condamné à la perpétuité, Dunan aura purgé moins de 15 ans de prison ferme. 2004. La famille de gendarme Jean Vert arrive à faire exhumer le corps pour une autopsie pratiquée à l'IML de Paris, qui révélera la présence de 2 balles dans la tête, entrées respectivement par la tempe et la bouche. Cette autopsie conclut de facto par impossibilité physique au meurtre. La blague. Une information judiciaire est ouverte, la famille porte plainte pour assassinat. Le juge saisi demande une deuxième autopsie, confirmée à l'IML de Lyon, qui contredit la première, en arguant que, je cite, « L'unique balle tirée entre par la bouche, fait quelques zigzags en évitant les dents et les os sur le chemin, fait un trou dans la tempe et reste dans la tête. » Allez, on ne rit pas trop, c'est Paris et chanson. Cette deuxième autopsie est rendue plus difficile que la première, du fait des interventions de la première autopsie. Une troisième autopsie, réalisée en 2006 à Paris et réalisée par un simple moulage du crâne, conclut de manière identique. Le moulage en question sera par la suite cassé. Ah, c'est pas de bol. On va faire laisser tomber. L'idée est simple, deux autopsies pour la thèse du suicide, une contre. 2004, Émile Louis est condamné à Draguignan pour les viols, tortures et actes de barbarie sur Chantal Paradis et sa fille à 20 ans de réclusion. Il avoue, punit les faits. Une autre femme, Madame Ziegler, a été tabassée, déshabillée, ligotée nue dans le coffre de sa voiture et séquestrée plusieurs jours dans sa caravane. Une dizaine d'autres défilent à la barre et accusent Émile Louis, souvent. Il drogue les femmes et les filles avec des sédatifs afin de les rendre vulnérables. Il fait appel de la décision et reste donc libre. Le procès d'Auxerre s'ouvre avec un mois de débat, une centaine de témoins. Émile Louis nie toutes les accusations. Il est condamné à la perpétuité pour le meurtre de 7 jeunes filles handicapées. 2007. Un nouveau juge d'instruction, Charles Prat, est désigné pour le meurtre du gendarme Jean Bert et fait exhumer une seconde fois le corps examiné par 3 collèges d'experts à Bordeaux. Le crâne a été bouilli et lessivé, ce qui efface la trace d'enfumage laissée par la poudre lors d'un tir à bout portant et atteste d'un orifice d'entrée et non de sortie. De plus, le crâne est cassé en plusieurs endroits et la mâchoire inférieure a disparu. Ce qui ne change pas pour autant le fait que la soi-disant balle ludique ne peut être à la fois ressortie par la tempe et se trouver dans la tête de Jean Bert, mais bon, c'est pitoyable, on passe. Le procureur de la République d'Auxerre, François Perrin, annonce que 2 des 3 collèges d'experts concluent au suicide. Alors tout va bien. 2011, l'instruction sur l'assassinat du gendarme Jean Bert aboutit à un non-lieu. 2012, la cour d'appel de Paris confirme le non-lieu sur l'assassinat du gendarme Jean Bert et la famille se porte en cassation. Donc on tient à signaler que cet article traite uniquement du réseau de Lyon, mais on va faire juste une petite parenthèse pour un réseau de la Nièvre qui se situe à peine à une demi-heure, une heure de route. Donc le réseau de la Nièvre était centré autour du père Nicolas Glencross, qui appartenait au réseau Toro Bravo et dirigeait la revue pédopornographique Spartacus. Ce réseau Spartacus était lié aussi au réseau anglais de l'Elm Guesthouse. Je vous renvoie au podcast consacré particulièrement à l'Elm Guesthouse et également au podcast donc sur le pasteur Doucet. Chaque année, Glencross ramenait des enfants de ses voyages en Inde, au Pérou, au Sri Lanka. Bref, il réalise entre 20 000 et 30 000 photos d'enfants en l'espace de 40 ans. Les garçons se sont le plus souvent retrouvés nus, dans des poses académiques ou suggestives. Les mineurs recevaient 50 francs par séance. Il est écroué à Fresnes en 90, à 77 ans. Il finit par mourir en décembre 91. Il connaissait également le pasteur Doucet. Glencross avait donc le plus grand studio pédopornographique d'Europe de l'époque, dans son presbytère, où le futur ministre Hubert Védrine avait été logé grâce à François Mitterrand, qui le parachuta ainsi à Saint-Léger-des-Vignes pour se faire élire. Jean Védrine, le père d'Hubert Védrine, avait rencontré François Mitterrand quand il travaillait pour Pétain en 1943. Jean Védrine était aussi ami avec Glencross, qui plus tard édita chez lui la revue Gay France, revue soi-disant homosexuelle, mais beaucoup plus, en fait, qui cachait également de la pédophilie. Cette revue a été fondée par Michel Quénier, publiée de 86 à 93. Elle est interdite à la vente aux mineurs pour incitation à la pédophilie. Pour aller plus loin sur ces affaires, nous pouvons conseiller la lecture du livre de Eric Raynaud, RAYNAUD, Les réseaux cachés des pervers sexuels aux éditions Le Rocher. On peut également vous recommander sur notre mur vidéo quelques documentaires. La huitième victime d'Émile Huy par Carl Zéro, l'affaire Claude Dunant, réseau pédocriminel sadomasochiste par France 3, l'enquête d'une vie et la mort du gendarme Jambert, les disparus de Lyon, jeudi investigation, ou encore le témoignage donc de Michel Fourniret, fils, et Émile Huy, fille, qui s'exprime en direct. Voilà, vous pouvez voir tout ça. Pour conclure, je veux dire, il suffit quand même de ne pas être un grand magicien pour voir que Lyon, à cette époque, était juste un bourbier pédophile qui s'alimentait et se repaissait de chair humaine en prenant les filles des IME, et bien plus encore, que ce soit des familles d'accueil. Tout était pourri jusqu'à la moelle, que ce soit du côté des services sociaux, mais comme vous l'avez vu, de la justice ou de la police, tout a été couvert. Imaginez que ça a duré des décennies et que les clients venaient donc des grandes villes, etc. Et que finalement, ça n'a abouti à quasiment rien, comme dans l'affaire Dutroux, comme à Outreau, où on est revenu sur contre toute évidence, au fait à dire qu'il n'y avait pas de réseau, à dire que c'était des prédateurs isolés ou deux prédateurs isolés, ce qui commence à être compliqué, ouais, et Claude Dunant, Fourniret, Émile Louis, voilà, qui étaient des gens tellement intelligents, alors que c'était des idiots quand même, mais qui avaient un passé, qui étaient en fait des hommes de main du réseau et qui fournissaient les réseaux. C'est toujours le même modèle qu'on trouve. Des réseaux de consommation d'enfants, de meurtres d'enfants ou d'adultes, de torture, qui font des choses atroces et qui vont utiliser des hommes de main, qui vont les rémunérer grassement. Je vous renvoie également à Fourniret, qui est mort récemment de manière tout à fait opportune en prison, et notamment au magazine L'Envers des Affaires de Carl Zéro, où on en sait un petit peu plus grâce au fils de Fourniret qui commence à parler, Selim, de ses liens avec la franc-maçonnerie et des contrats qu'il pouvait recevoir, des choses qu'il faisait, etc. On voit bien que c'est toujours les mêmes schémas et toujours les mêmes étouffements d'affaires, et évidemment les réseaux se protègent. Voilà.